Bonjour, bienvenue au Polysécure. Je suis avec Emeline.
Bon matin.
Oui, ben c'est vrai, bon matin. C'est pas dans mon rythme normal, mais maintenant, je vais commencer à enregistrer le matin, c'est vrai. C'est vrai, le fait de remarquer. On va aborder un segment un peu plus pour les PME puis le grand public sur les configurations de confidentialité et l'usage de Facebook dans un point de vue personnel et professionnel.
Oui, exact. Donc, moi, j'aime bien, pour débuter et donner une petite image, quand on parle des réseaux sociaux en général, quand on parle d'Internet en général, avant de rentrer dans Facebook, tu me diras ce que tu en penses. Mais moi, je trouve qu'il faut voir un peu les réseaux sociaux et Internet comme un puzzle. Avec les informations qu'on publie sur Internet, on peut savoir où est-ce qu'on travaille. Ben, merci LinkedIn. Connaître qui sont nos amis, qui sont nos clients, collaborateurs potentiels. Généralement, Facebook et LinkedIn sont deux belles plateformes pour ça. Et même savoir ce qu'on a mangé à midi. Merci Instagram et les petites stories. Et maintenant Facebook aussi. Mais pareil avec les informations qu'on publie sur notre entreprise. On a nos coordonnées, mais on va aussi avoir les informations sur les clients, sur les membres de notre équipe, sur nos fournisseurs, etc. Et si une personne veut voler mon identité ou personnifier mon entreprise, elle ne va pas se contenter de scruter mon Facebook à la loupe. Non, elle va vraiment rassembler tous les petits morceaux de puzzle que j'ai dispersés inconsciemment, parfois, sur Internet à tous les jours et reconstituer mon identité et celle de mon entreprise. Donc, pourquoi ajuster nos paramètres de confidentialité, surtout quand on parle de Facebook aujourd'hui? Mais justement, peut-être pour éviter d'éparpiller plutôt les pièces de notre puzzle, avoir un certain contrôle sur les éléments qu'on met en ligne concernant l'entreprise, concernant nos propres vies aussi. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est sûr qu'à un point de vue personnel, ces plateformes-là nous invitent énormément à contribuer, donc de diffuser de notre connaissance et de notre vie personnelle sur ces réseaux-là. Donc, c'est une invitation très forte là, d'ailleurs, et ils nous poussent très fort à y aller. Donc, c'est sûr qu'on est c'est difficile d'y résister pour bien des gens. Puis ensuite, là, toutes les différentes plateformes viennent justement corroborer différentes pièces du puzzle, comme tu mentionnes, qui viennent compléter le portrait de qui nous sommes. Puis donc, dans le fond, c'est aussi de voir comment on limite ces informations-là et comment on les partage de façon différente ou de façon incohérente en différents réseaux pour justement s'assurer de soit protéger ou limiter. Là. Puis aussi, parce que pour moi, il y a une différence très profonde entre mon Facebook qui est personnel et mon LinkedIn qui est professionnel. Ou mon Instagram qui est très photo, mais pas photo de ma nourriture, mais photo parce que j'aime la photo. Donc, c'est différents aspects qui sont vraiment découpés, mais j'ai l'impression que la plupart des gens ne font pas ce découpage-là aussi marqué que ça, là. qui ne sont pas un Charlie dans ce contexte-là.
Oui, exact. Puis, tu sais, quelque chose de majeur aussi, c'est que avec Facebook, typiquement, c'est que pour accéder à mon profil professionnel, on a une page professionnelle, on va avoir des groupes qu'on gère peut-être plus côté professionnel, parce que oui, Facebook est une plateforme plus perso, plus légère, mais il y a quand même aussi beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de professionnels qui se retrouvent sur cette plateforme-là à titre personnel et qui vont marquer leur intérêt à ce moment-là. Mais ce qui est majeur, je trouve, c'est que pour accéder à mon profil professionnel, il faut que je passe par mes identifiants et mes mots de passe personnels. D'où l'importance de prendre quelques minutes pour paramétrer le tout. Quand on pense sécurité de base, si on reste vraiment de base, mais mot de passe robuste, activer le double facteur d'authentification, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Puis, on est vraiment très habitué à l'hameçonnage par courriel. Donc, le fait de recevoir un courriel d'une personne qui se fait passer probablement par une institution de confiance, puis qui veut nous amener à cliquer sur un lien ou une pièce jointe. Mais ça existe aussi sur les réseaux sociaux et je suis sûre que la plupart de nos auditeurs ont expérimenté ce dernier stratagème dernièrement où est-ce que je reçois une vidéo d'une personne que j'ai dans mes contacts sur Facebook, donc sur Messenger. Et cette vidéo-là, était combiner un petit message de la personne en me disant « Oh, est-ce que c'est toi ?» Et là, qu'est-ce qu'on attend ? On attend à ce que je clique sur la vidéo pour vérifier si c'est moi ou non. Mais qu'est-ce qui arrive si je clique effectivement dessus ? Je vais devenir moi aussi, à mon tour, malgré moi, un redistributeur de ce message, de cet élément malveillant finalement. Et tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je personnellement, je trouve que ça peut vraiment avoir un impact sur notre réputation également professionnelle sur Facebook. Quand on a, on prospecte sur Facebook, quand on a une page professionnelle, peut-être qu'on va aussi avoir dans nos amis de potentiels clients, parce que c'est l'approche qu'on a voulu adopter avec Facebook, mais on a quand même une belle perte de crédibilité, malheureusement, en quelques clics. Moi, quand je reçois ça, je suis ton client et je reçois ça de ta part, admettons, ben, ça me dit, pas très, très protégé. Qu'est-ce qu'il y en est de mes propres données personnelles? Qu'est-ce qu'il y en est de... Je suis curieuse de t'entendre là-dessus.
Comme toi, personnellement, ça va m'affecter si je vois quelqu'un qui utilise, en tout cas, qui a un profil plus professionnel sur Facebook. Puis les frontières dans Facebook sont vraiment pas faciles à déterminer qu'est-ce qui est personnel et professionnel. Maintenant, ils font beaucoup d'efforts pour essayer d'amener le volet professionnel, business, ça, mais ces frontières-là sont très poreuses, disons. Donc, ce qui fait que c'est très, très difficile de voir ça. Si je vois ça, moi, c'est sûr que ça va m'affecter. La plupart des gens, je ne sais pas si à quel point ça va éveiller chez les gens ce même commentaire-là ou même observation-là, parce que je ne suis pas sûr. Puis ils sont encore dans l'espace personnel. Donc, j'ai l'impression que l'amusement, le petit côté ludique associé à Facebook, même si c'est une page professionnelle quelque part, va faire ce genre de lien-là. Peut-être que au fond de quand consulter, disons, on va consulter la page Facebook d'un commerce ou d'une entreprise, puis là, on va voir les commentaires liés à des gens qui y travaillent, ben là, on va peut-être commencer à faire des liens autres et des associations négatives pour l'entreprise en question, surtout les petites entreprises. Puis, de fait, ben comme les petites entreprises ont tendance à se placer sur Facebook parce qu'ils veulent de la visibilité, contrairement à un LinkedIn qui est plus pour du réseautage professionnel. Fait que ça va peut-être effectivement à terme, peut-être pas dans l'immédiat, mais à terme, nuire à leur réputation numérique d'entreprise, d'avoir cette espèce de manque de respect de cette frontière-là entre les deux univers.
Oui, exact. Puis il y a beaucoup, beaucoup de formations. Facebook change un petit peu de visage quand même dernièrement, je trouve, où est-ce qu'on va retrouver de plus en plus d'entreprises, d'entrepreneurs qui vont justement avoir un profil plus professionnel, un profil personnel. Donc ça, c'est très bien de faire ce cloisonnement-là, mais aussi de faire attention, comme tu dis, à ce que le profil professionnel va pouvoir publier, l'image de marque qui va en dégager, etc. Donc oui, effectivement, ce sont des très, très bons points. Puis tu sais, là, je parlais de l'hameçonnage plus par Messenger, mais je suis convaincue que tu l'as vu toi aussi de ton côté dernièrement, les publications qui vont, tu sais, si on repense à mon puzzle, justement, attention à ce qu'on publie sur Internet. Quand on nous demande quelle est la marque de votre première voiture, quelle était la marque de votre première voiture, quel était votre nom de jeune fille avant votre mariage, tu sais, toutes ces questions-là qui nous rappellent un peu nos questions aux réponses secrètes, généralement, qui, pour qu'on se connecte sur une plateforme ou autre, c'est très, très questionnable. Justement, moi aussi, j'avais partagé ça sur Facebook et sur LinkedIn, sur les deux, pour sensibiliser un petit peu, de faire attention aux informations qu'on donne, parce que c'est le principe même aussi du redécoupage, puis de rassembler tous les éléments du puzzle. À ce moment-là, on se retrouve à avoir une panoplie d'informations sur nous.
Oui, puis ça, tu amènes un point intéressant. Dans mes présentations avant, j'en parlais beaucoup. C'est beaucoup moins vrai sur Facebook maintenant, mais ça demeure quand même vrai jusqu'à un certain point, là, l'espèce de notion de confiance transitive. C'est-à-dire que les personnes à qui on fait confiance, malheureusement, vont relayer de notre information à notre insu. Donc, dès lors, on crée un problème beaucoup plus grand. Fait du fait que de partager, disons, juste un petit quiz drôle entre amis, quand il va élargir de ce cercle-là, ce petit quiz drôle entre amis devient une source d'information très riche pour les malveillants, pour réussir à venir justement chercher l'information nécessaire des questions secrètes, genre le nom de jeune fille de notre mère ou toutes ces questions-là qui nous mènent à généralement les questions de sécurité. Puis même toutes les notions de photos qu'on dépose sur ces réseaux-là dans un site, dans des applications qui sont pas des applications Facebook, qui appartiennent à une compagnie tiers, qui sont dans Facebook, qui viennent prendre nos photos, qui les amènent dans un contexte qui est peut-être pas celui qu'on veut, parce qu'ils vont utiliser, faut le dire, ils vont utiliser ces photos-là pour faire de la reconnaissance faciale, pour nous mettre notre face dans une banque de données, de mettre des choses comme ça. Même si ça a l'air très drôle parce qu'on a notre visage est transformé en dessin animé, le fait, c'est que le coût, parce qu'il y a un coût à ce genre de choses-là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils vont stocker cette information-là de façon éternelle, et probablement qu'en acceptant les choses, on a cliqué sur un bouton qui fait « j'accepte que mon visage soit éternellement stocké en plus ». Tous ces frontières-là sont tellement obscures que c'est très difficile. Puis la fuite puis le puzzle, ben là, il devient très, très, très facile pour les malveillants et très difficile pour nous de contrôler.
Oui, exact. C'est vraiment un très bon point ce que tu amènes par rapport à ces applications-là qui sont le fun à utiliser et qui sont gratuites d'autant plus, mais qui, comme tu dis, vont stocker, collecter des informations sur nous. Pas à notre insu, ça, simplement qu'on ne s'est peut-être pas assez renseigné, nous, à notre niveau. Puis, il faut que je te raconte une anecdote par rapport au nom de famille de la mère avant de passer plus aux paramètres de confidentialité Facebook que je voulais qu'on regarde, mais j'ai été aberrée. C'était peut-être en 2019, j'étais à l'hôpital, puis là tu fais une carte d'hôpital quand tu vas à l'hôpital, puis sur ta carte d'hôpital, il y a écrit le nom de jeune fille de ta mère, et j'étais tellement étonnée, choquée. Moi, j'ai, à 2018, je terminais mon certificat à Polytechnique en cyber-enquête, j'ai dit, mais voyons donc cette information, on se retrouve là-dessus, j'ai même appelé l'hôpital. Je l'ai appelé l'hôpital pour leur dire, mais vous vous rendez compte de l'information que vous mettez sur vos cartes? La carte est perdue, peu importe, il y a tout plein d'informations. Donc, ça m'avait beaucoup, beaucoup fait réagir. Ouais, au niveau section à propos, tu sais, dans nos profils, on a la section, quand on est sur notre profil, à propos de nous, à propos de nos données personnelles, cette section contient beaucoup, beaucoup d'informations personnelles, dépendamment de ce qu'on va mettre dedans. Puis j'aurais envie de dire, c'est un peu la question, à qui est-ce que je donne ces accès? À qui je donne accès à quoi? Est-ce que je choisis de rendre certaines informations accessibles au monde entier, à mes amis uniquement, ou même est-ce que je laisse ces sections vides? Donc, tu sais, j'amène la réflexion par rapport à ça, puis justement, on va pouvoir faire un peu le parallèle avec nos trois acolytes de la dernière fois, qui sont Bob, Alice et Charlie, mais typiquement, si je prends un onglet, j'ai quelques notes devant moi pour me souvenir de quels sont les onglets, parce qu'il y en a quand même beaucoup aussi, mais l'onglet emploi et scolarité va souvent relater les informations et les mêmes informations que LinkedIn typiquement. Donc si je reprends mon petit Charlie, c'est sûr qu'il ne mettra rien. Et les informations, c'était un peu, c'était notre control freak, puis très très soucieux de ses propres données personnelles, Charlie. Donc lui, toutes ces sections-là, il les laisserait vite. Donc déjà en partant, ça élimine des informations qu'on rend accessibles. Mais emploi, scolarité, si on y va avec un autre œil, si on y va peut-être avec l'œil d'Alice ou de Bob, mais c'est des informations qu'on retrouve déjà sur LinkedIn. Donc voilà, avoir la réflexion, est-ce que c'est nécessaire de rendre ça accessible juste à mes amis ou à moi uniquement? Après, on revient toujours à notre gestion du risque. Hein. Notre gestion du risque et notre tolérance au risque. Au niveau de l'onglet, il y a l'onglet lieu de résidence qui va concerner les villes où est-ce que j'ai habité. Cette information peut souvent être facilement devinée aussi en fonction des lieux de mes emplois ou de mes écoles. Si j'ai rendu accessible où est-ce que j'allais à l'école, où ont été mes emplois, bah, généralement, bah, le lieu de résidence, on peut bien souvent faire le lien. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact. Et encore une fois, ça c'est selon mon point de vue, mais chacun aussi sa propre gestion du risque. Ça n'a pas vraiment d'impact à ce que ça reste public. On a l'onglet famille et relations. Famille et relations, bon, est-ce que ça devrait rester privé? Est-ce que ça devrait rester disponible à uniquement nos amis? Si on accepte tout le monde sur Facebook, quelle est la qualité réelle de nos amis? C'est ça aussi, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Ensuite, c'est ma question est la suivante, à savoir, mais c'est quoi la définition d'un ami sur Facebook? Ça a sûrement un impact dépendamment de la personne, bien entendu, mais il y en a qui ont 2000, 3000, 4000 amis. Est-ce qu'on connaît vraiment toutes ces personnes? Pas nécessairement. Donc, on donne accès à ces individus-là et puis chacun de ces individus-là représente une porte d'entrée, représente une faille potentielle aussi. D'où est-ce que nos données pourraient fuiter? Qu'est-ce que tu en penses? Je vois que tu hoches la tête.
Oui, je hoche la tête parce que ça, c'est l'espèce de où la frontière a été longtemps très floue. Les gens n'avaient. Avant que Facebook se positionne de point de vue affaires, business, les gens avaient soit un compte business et soit un compte personnel sur Facebook. Ils vivaient avec les deux. Ou soit ils prenaient leur compte personnel et ils se connectaient avec leurs collègues de travail ou avec quelque chose comme ça. Fait que la frontière a été longtemps très floue. Tout dépendant des environnements dans lesquels je suis, où j'évolue, soit ça va être des gens sur LinkedIn qui vont se brancher, ou soit ça va être sur Facebook. Fait que dans un monde plus web, plus développeur web, ce genre de choses-là, on les retrouve beaucoup plus sur Facebook parce que c'est plus leur environnement naturel que sur LinkedIn. Fait que j'ai beaucoup, j'ai pas beaucoup d'amis, on peut en dériver à peu près ce qu'on veut de ça, mais disons c'est plutôt limité sur Facebook au sens où c'est plus des gens proches que je connais vraiment qui s'y trouvent ou des collaborateurs proches que des gens avec qui j'ai rencontré qu'une seule fois pour faire un travail ou faire quelque chose ou dans lequel ils vont être beaucoup plus sur LinkedIn à ce moment-là ou qui, mais moi, cette frontière-là est faite. La plupart des gens, là, ce que j'en constate, n'est pas faite. Puis là, c'est là où on embarque. On a 2, 3, 4, 10 000 personnes dans nos amis ou en tout cas dans nos connexions sur Facebook qui vient peut-être justement, c'est ça, puis c'est tout dénuancé. C'est là où devient le danger parce qu'on partagerait pas les mêmes informations à nos amis, à notre famille, versus ce qu'on partagerait avec nos collègues ou peut-être des collègues éloignés ou des collègues d'il y a 10 ans ou tout ce genre de notions-là. Mais comme c'est un gros melting pot de choses qu'on... Les gens ont accès à l'ensemble de notre vie, de nos choses qu'on décide de partager là, dans ce genre de réseau-là. Puis ces réseaux-là existent pour le partage, donc en même temps, de ne pas partager, c'est un peu bizarre.
Oui, c'est là aussi qu'un profil deviendrait étrange. S'il y a peu de choses de partager dessus, on se dirait « c'est un petit peu douteux, ce petit profil-là qui n'a pas grand-chose », mais ça se peut qu'une personne... de façon très consciente et par choix, décide de publier moins aussi. Donc ouais, non, c'est des très, très bons points. Puis dans cette section à propos-là, on va avoir plusieurs autres onglets que c'est des détails sur nous, des éléments marquants de notre vie. Et selon moi, ces sections-là devraient rester le plus vite possible. Qu'on ait un profil plus orienté professionnel ou bien même un profil personnel, tous les détails supplémentaires qu'on donnera sur nous ou les événements marquants de notre vie, ce sont des éléments du puzzle. Ce sont des éléments qui vont aussi penser à une personne qui fait une fraude ciblée me concernant, admettons. Si je mets dans le détail sur vous que, je sais pas, j'aime les chats et les licornes, que j'aime la crème glacée à la pistache, peu importe, j'invente, mais ça va être que des points de connexion que le fraudeur potentiel pourrait utiliser pour qu'on ait des points communs, pour que je me sente bien et je sente que je ressemble à cette personne-là qui finalement est un fraudeur et qui se sert des éléments que je lui ai donnés pour commettre son stratagème. Mais ça m'amène aussi au point, comment est-ce que les autres peuvent me trouver, peuvent me contacter sur Facebook? Les paramètres ont beaucoup, beaucoup évolué à travers le temps. Ou est-ce que avant c'était les utilisateurs de Facebook, maintenant le monde entier, par une recherche sur les moteurs de recherche, peuvent retrouver mon profil. Mais typiquement, une question qui nous est posée dans les paramètres de confidentialité, la suivante, qui peut m'envoyer des invitations à devenir ami? Et là, typiquement, notre ami Charlie, qui est plutôt conservateur justement à ce niveau-là, va pas nécessairement vouloir que tout le monde puisse lui envoyer des demandes d'amis. Qui peut m'envoyer des invitations à devenir ami? Mais justement, peut-être choisir les amis de mes amis, donc des personnes avec qui j'ai déjà des liens, peut-être. Le point de vue de Bob sur cette question-là, lui de son côté, il choisirait tout le monde. Tout le monde, mais de toute façon, il y a toujours l'option de refuser la personne une fois qu'il reçoit l'invitation. Pareil, justement, j'en parlais en fin de semaine, qui peut voir ma liste d'amis? Qui peut voir avec qui je suis amie? On pourrait choisir que ce soit uniquement nos propres amis qui aient accès à ce contenu-là pour éviter que, justement, un fraudeur qui se rende sur mon profil alors qu'on n'est même pas amis, on n'a pas été connectés, puisse refaire un arbre généalogique de mes relations, de mes contacts, de mes collaborateurs potentiels, des membres de ma famille. On ne veut pas qu'un inconnu, c'est ça, puisse faire cet arbre généalogique là. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, tout à fait. Puis, tu soulèves un point très intéressant sur l'évolution des configurations, parce que dans l'univers Facebook, ça a énormément évolué depuis, disons, les 10-15 dernières années. D'un point de vue excessivement libéral sur les configurations au début, où maintenant, il nous offre beaucoup de possibilités de fermeture. Mais c'est très compliqué de naviguer dans ces différentes configurations-là. Et du fait de la complexité, il n'y a pas de profil type. Disons, ils n'ont pas développé 3 profils, genre moi, je veux fermer, moi, je suis un moyen, moi, je suis un ouvert, ou minimalement, qui nous donnent la possibilité de nous préconfigurer un certain nombre d'éléments, éléments de base, de nous retrouver. Moi, je suis du côté très Charlie, c'est moi, je suis très fermé parce que mon Facebook n'est pas fait pour découvrir des gens, n'est pas fait pour mon Facebook, parce que c'est pas fait pour découvrir, ouvrir de la business. Fait qu'il n'est pas vraiment pas axé comme ça. Puis même encore là, il faudrait que peut-être les gens basculent de leur profil Facebook en termes d'individus, veulent les basculer vers des pages Facebook ou des groupes Facebook, justement pour les amener vers le volet vraiment business. puis justement ne plus être découvrable comme individu, mais découvrable comme business. Puis ça aussi, c'était peut-être un choix que les à faire, mais c'est tellement évolué. C'est demander aux gens à chaque fois de surveiller les derniers changements, les dernières évolutions, c'est pas nécessairement évident non plus, là.
Oui, exact. Et puis, tu m'amènes à parler d'un phénomène qu'on a beaucoup vu aussi depuis la pandémie, c'est le marketing relationnel, les ventes, donc le MLM typiquement, dont les sigles, enfin les lettres m'échappent ce matin, mais on a eu quand même une grosse évolution de personnes qui ont intégré des groupes comme ça, où est-ce que c'est du marketing relationnel. Marketing relationnel veut dire être plus proche des gens, être plus proche des clients, et c'est là qu'on a vu une espèce de tournure aussi avec Facebook, où est-ce que les profils personnels sont devenus des profils un peu plus de prospection de nouvelles clientèles, parce que marketing relationnel égale souvent d'être proche du consommateur, de se montrer également dans son day-to-day, dans ses propres habitudes, et donc ça a évolué en ce sens-là. Ça aurait beaucoup moins de réussite, selon moi, ce modèle d'affaires-là, avec une page Facebook, typiquement. D'où, pas l'importance, mais d'où cet engouement qu'on a vu pour un transfert d'un compte personnel vers quelque chose d'un peu plus professionnel, veut pas. Un autre point, je serais curieuse de t'entendre aussi sur cet élément-là aussi, mais on a la possibilité, voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil ? Ça, je trouve ça... super intéressant. Est-ce que je veux que quand je tape mon propre nom sur Google ou quand quelqu'un tape mon nom sur Google, est-ce que je veux que mon profil Facebook ressorte? Moi, mon point de vue, je te le donne tout de suite, puis je serais curieuse d'avoir le tien ensuite, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'impact ici, puisque de toute façon, il est très facile de remonter jusqu'à mon profil, c'est-à-dire que même si lors d'une recherche sur Google, on tape mon nom puis on retrouve pas mon profil Facebook directement, mais rien n'empêche à l'individu qui me cherche d'aller sur Facebook puis de faire une recherche par nom depuis Facebook et là retrouvera mon profil, même s'il n'a pas été indexé sur les moteurs de recherche.
Ouais, moi, mon profil, il est très difficile à trouver sur Facebook. Là, c'est pas un défi que je lance à personne quand je dis ça, là, mais parce que ça se peut que la configuration elle a dévié avec le temps et les nouvelles choses ont apparu. Mais il y a plusieurs années, j'avais fermé au maximum qui était possible à cette époque-là. Là. Puis d'ailleurs, ça me rappelle qu'il faudrait que j'y retourne aller faire un petit rafraîchissement à ces configurations-là parce qu'ils ont dû évoluer de façon encore importante depuis. Mais je les avais vraiment fermés. Ce qui fait que même au niveau de Facebook, je pense qu'il fallait que tu aies mon adresse courriel exacte pour me trouver. Si tu l'avais pas, tu ne me trouvais pas. Fait que tu peux pas juste chercher mon nom puis tomber par hasard sur moi. Comme donc, conséquemment, pour moi, me faire trouver dans Google pour la même chose est inacceptable parce que je l'avais déjà fermé côté Facebook. Parce que je ne voulais pas ce genre de choses-là. Mais tu vois, en même temps, comme on a chacun des profils hybrides, autant sur Facebook, je suis un Charlie, autant sur LinkedIn, je vais être un Bob. Parce que sur LinkedIn, pour moi, c'est un environnement de travail, donc un environnement où c'est plus normal de partager des informations de travail, par exemple. Tu sais, je partage pas mon dernier repas ou mon dernier voyage sur LinkedIn, je vais partager mes expériences professionnelles. C'est une autre connotation aussi. Fait que, tu sais, on choisit, puis c'est ça qui est difficile de ramener tout ce volet-là professionnel sur Facebook, parce que ça vient s'entremêler de choses personnelles, mais comme tu disais, du marketing de proximité, oui, parce que les gens connectent plus facilement, c'est vrai, mais en même temps, j'ai un malaise, peut-être parce que la nature de travail que je fais, que ça, ces genres de choses-là s'entremêlent, peut-être dans d'autres secteurs, c'est plus correct ou c'est plus accepté que ce choses-là s'entremêlent, mais à un moment donné, ces choses-là durent dans le temps, puis si on commence à partager tous nos déboires dans notre vie personnelle en même temps qu'on essaie de faire du marketing de proximité, je sais pas, là. Puis se faire retrouver sur Google, oui, dans la mesure où on veut amener du monde dans notre business. Mais moi, j'amène pas de monde dans ma business sur Facebook d'un point de vue personnel. J'ai une page, ça va. Mais c'est tout. Pour moi, la façade, mais c'est une question de profil. Mon profil, moi, c'est très, très charlé sur Facebook.
Mais c'est excellent aussi. Mais tu vois, j'ai envie de rebondir sur quelque chose par rapport à LinkedIn. C'est que je suis très, très curieuse de voir comment est-ce que ça va évoluer avec le temps aussi, parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais on commence à avoir les stories qu'on a eues initialement sur Instagram, puis que Facebook a repris. Et maintenant, on a des stories aussi sur, euh, sur LinkedIn qui sont finalement bon, tu, la petite bulle au niveau de notre photo qui nous dit que la personne a publié du contenu qui est accessible uniquement pour 24 heures, qui est du contenu généralement un petit peu plus léger. Donc, dans quelle direction aussi va-t-on s'en aller avec LinkedIn?
Oui, ben ça, je trouve ça très amusant. Moi, ça me parle pas. Sérieusement, quand j'ai vu arriver ça sur LinkedIn, je trouve que c'est un non-sens d'avoir mis ça là. C'est comme, à la limite, racoleur, ce genre de choses-là. Mais j'imagine qu'ils veulent refaire vivre le côté de marketing de proximité du côté LinkedIn qui est très collant très fort sur Facebook. Fait que peut-être c'est ça qu'ils essaient de ramener. Mais moi, ça me parle pas du tout parce que c'est pas le genre de relation que j'ai. Je vais avoir des relations avec des employeurs, je vais avoir des relations avec des collègues, pas avec peut-être des clients. Mais c'est moins dans ce contexte-là que je vais trouver des choses comme ça, ou des clients dans la mesure où soit c'est des chasseurs de tête qui viennent me solliciter, soit c'est des clients qui affichent des postes, mais c'est ou des contrats, mais c'est pas dans un contexte de relation joviale entre deux collègues de travail non plus. Là. Fait, t'sais, c'est comme j'ai de la misère. Moi je vois pas, mais toi, comment tu le vois, ce genre de choses-là?
Moi, je suis convaincue que les relations de prospection de nouveaux clients vont se faire beaucoup, beaucoup d'humain à humain dans les prochains temps. J'ai l'impression vraiment que le B2B, le business to business est tranquillement voué à disparaître, qu'on est vraiment, avec probablement mon point de vue là-dessus, c'est avec la pandémie, on a tellement été isolé en quelque sorte que là, le fait qu'une personne pour qui on pourrait acheter des services a une approche très personnelle, très personnalisée, on se sent un peu plus spécial et on se dit, ah ben la personne, son produit va vraiment être adapté à moi parce qu'elle prend le temps de... Et il y a peut-être aussi beaucoup de manipulation aussi à travers tout ça, mais je pense qu'on s'en va vraiment plus vers du human to human, humain à humain, et que ben, justement les stories vont probablement faire en sorte que ça va faciliter le tout et la proximité entre le client et l'entreprise aussi.
Ouais, ben ok, en ce sens-là, je trouve que je suis pas encore confortable. C'est peut-être plus ça. C'est mon petit côté Charlie, ça a très agacé de cette situation-là, probablement. Mais en même temps, tu parles d'humain à humain, mais mon expérience LinkedIn est très particulière. Puis j'imagine que tu as eu quelque chose de similaire, c'est qu'il y a beaucoup d'automatisme, il y a beaucoup de faux automatismes surtout chez les prospecteurs. Ben, je suis pas sûr que quand on parle d'humain, on parle d'un vrai humain ou d'un humain qui utilise des mécaniques un peu ratées dans la plupart des cas dans lesquels les messages de prospection, pour moi, soit je le vois clairement que c'est un message déjà préformaté puis qu'il n'y a rien de personnel dans ce qu'il fait. Mais, sont peut-être un peu malhabiles encore sur LinkedIn avec leur côté humain qui semble un peu mécanique. Là. J'aimerais ça t'entendre aussi là-dessus.
Oui, ben, je suis d'accord avec toi. Comme quoi, il y a des outils qui ont été mis en place. Puis quand il y a des outils qu'on met en place pour nous faciliter la vie, pour nous faire optimiser du temps, ben, généralement, on les utilise. Est-ce que c'est toujours à bon escient? Comme tu dis, des fois, ça devient mécanique, ça devient un petit peu robot. Donc, oui, absolument, ça amène des enjeux, ça amène des questions. Puis pendant qu'on est justement dans les messages, peut-être que je reviendrai à Facebook. Et d'ailleurs, tu as dit quelque chose tout à l'heure par rapport à Facebook que tu serais peut-être dû pour une petite mise à jour des paramètres de confidentialité. Je te confirme que ça change assez rapidement. Puis généralement, quand ça change, ils se permettent finalement de nous remettre d'anciens paramètres qu'on avait bien, bien paramétrés, mais qui remettent ça un peu par défaut. Donc, je t'encourage et j'encourage tout le monde à y faire un petit tour de temps en temps. Mais il y a une question sur Facebook et puis sur LinkedIn aussi, à savoir, mais comment est-ce que je veux obtenir des invitations par message? Ça, concrètement, c'est de décider si j'accepte qu'on m'envoie des messages et dans quelle boîte de réception je veux que ça tombe. Avec Facebook, on a deux boîtes de réception. On a mes discussions et on a justement une invitation par message. En termes de sécurité, là où est-ce que j'ai envie d'amener le point, c'est que les paramètres qu'on choisira ici ne change pas grand-chose dans mon cas. Que je reçoive le message dans ma boîte de réception ou dans mes invitations par message, mais c'est du cas par cas, parce que c'est pas parce que je reçois un message dans ma boîte de discussion qu'il n'est pas frauduleux. Et inversement, c'est pas parce que je reçois un message par invitation qu'il l'est forcément. Il faut simplement être vigilant et éviter de cliquer sur les hyperliens. Peut-être que oui, nous, ça va nous mettre un peu plus la puce à l'oreille quand c'est un message qui va se retrouver dans les invitations plutôt que la boîte de discussion. Et d'un autre côté, pas légitimer tout de suite pour autant ce qu'on reçoit quelque chose dans la boîte de discussion. Qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à cette gestion du risque-là?
Oui, puis de toute façon, puis on avait parlé ça un peu hors onde, là. C'est un peu comme les messages qu'on reçoit par texto aussi, qui sont, par nature, vont avoir une impression plus personnelle, puis comme s'ils nous étaient en voie destinée à nous autres. Donc, à ce moment-là, on va être un peu moins, naturellement, moins vigilant. À ce moment-là, donc, on va être plus tenté à cliquer sur le lien ou à aller vérifier ce que c'est ou aller agir sur le chose. Puis, généralement, en plus, ils vont nous interpeller nos sentiments d'urgence. Fait qu'ils viennent sont quand même très habiles au niveau de la manipulation pour nous amener à porter action par rapport à ce qui est dans le message. Fait que non, il faut juste être vigilant parce que peu importe comment le message rentre. Mais encore là, comme mon Facebook est très fermé, les messages qui rentrent dans la boîte non standard, ben, sont naturellement plus, j'ai regardé de façon plus circonspecte justement parce qu'ils sont pas supposés, je suis pas supposé en savoir en temps normal. Si on veut me contacter, c'est pas par là qu'on me contacte. Mais, bref, c'est oui, ça peut porter beaucoup de confusion, mais c'est ça aussi, là, tous les mélanges, on parle de mélange des genres, c'est là où ça devient difficile pour les gens de distinguer qu'est-ce qui est le vrai du faux. Puis Facebook, c'est l'univers du faux qui a l'air d'être du vrai, là, fait que c'est très difficile.
Oui, exact. Non, c'est tellement vrai ce que tu amènes, puis la façon dont tu l'amènes, c'est toujours... tu sais, si on avait un petit bouton qui, comme tu dis, trois profils, moi je suis un Charlie, moi je suis Alice, moi je suis plus du type Bob, ça faciliterait. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus tomber dans... j'en parlais la dernière fois avec Bob, où est-ce qu'il prenait un petit peu les choses pour acquis en disant « Oh, on entend tellement parler de la sécurité que les plateformes doivent bien mettre des choses à disposition pour nous, mais pas nécessairement. » Quand même, rester curieux et rester vigilant dans tout ça. Et justement, le dernier point que je voulais amener par rapport aux paramètres, c'est par rapport à les identifications. Une personne pourrait me taguer, si je reprends les mots, le vocabulaire propre à Facebook, sur une photo. Mais est-ce que je veux que cette photo se retrouve tout de suite instantanément sur mon profil ou est-ce que je veux avoir un certain contrôle là-dessus? Si je permets à tout le monde de publier sur mon profil et que je fais aucune supervision, quelqu'un pourrait très bien publier quelque chose de frauduleux et que mes contacts se fassent ensuite avoir par cette publication. Mais effectivement, maintenant et heureusement, on a l'opportunité de faire de la supervision. On a des options qu'on peut aller activer dans nos paramètres. La publication d'un tiers ne va pas se retrouver tout de suite sur mon journal, sur mon profil. Je vais recevoir une notification pour l'examiner puis déterminer est-ce que oui ou non je veux que ça se retrouve sur mon profil. J'imagine que t'es plus du type Charlie aussi là-dessus ou est-ce que...
Totalement Charlie, mais je suis quand même parce que c'est quand même des belles plateformes de promotion, mais pour mes initiatives professionnelles, peu pour mes initiatives personnelles. Je partage peu de photos, peu de choses comme ça. Fait que me taguer sur une photo, genre, je frémis jusqu'à que je vois quelqu'un me taguer sur une photo, je veux pas rien savoir de ça. Mais justement, ça permet de m'identifier, me faire trouver dans les banques de données, fait que c'est déjà très inconfortable dans ce contexte-là. C'est toujours dans la sphère où on parle de contrôle de l'information dès qu'on sort. Fait que c'est là où je suis un Charlie, c'est parce que j'aime pas que perdre le contrôle de mes informations personnelles parce qu'on peut me frauder, oui, mais parce qu'à un moment donné, c'est une question d'image. Qu'est-ce qu'on fait avec mon image? Qu'est-ce que ces compagnies-là récoltent? On enlève le fait que Facebook récolte tout de toute façon, mais le fait que les compagnies tiers qui tournent autour de Facebook vont récolter cette information-là, vont l'utiliser. Là, ça me fatigue davantage parce qu'on est capable d'aller plus loin. Puis à une époque, on avait avec Farmville puis ces éléments-là, bien, il avait été découvert que Farmville venait pomper la liste des contacts de nos contacts. Fait que c'était cet élément-là qui devient justement très effrayant parce que même si moi je fais attention, si j'ai quelqu'un dans mon réseau qui ne fait pas attention, là, celle-ci va m'entraîner dans ses éléments, dans ses choix à elle, qui sont pas un même profil de risque que moi. C'est moins vrai maintenant, le Facebook a beaucoup redressé ça, mais c'est pour ça qu'il faut aller vérifier là. Fait que j'allais justement aller vérifier que je suis bien Charlie à l'ensemble de mon profil Facebook. Mais encore là, je suis Bob sur LinkedIn. Fait que c'est là où on fait nos choix, mais je suis un Bob professionnel. Je ne me mets pas au long là sur LinkedIn, je mets mes affaires professionnelles. Fait que, puis je mets mon lunch sur Facebook, mais Facebook, j'ai pas beaucoup de monde parce que mon lunch, je le partage pas avec beaucoup de monde. Je veux pas le partager avec beaucoup de monde. Puis je veux pas avoir des publicités qui, puis tu sais, je veux pas ça. Puis même, j'incite les gens à moins me parler sur Messenger, sur Facebook, parce que ce qui est dit là ramène à des publicités après. Fait que, tu sais, je trouve ça très inconfortable de voir que mon contenu ensuite me sert à manipuler mon esprit pour me faire acheter des choses que, lesquelles ont été discutées. Fait que, tu sais, c'est, tout ça crée une forme de malaise chez moi, là, ce qui fait que je suis un Charlie dans cet univers-là, mais c'est ça.
Mais effectivement, tu amènes un bon point qu'on pourrait discuter une prochaine fois, mais par rapport aux publications, aux publicités, pardon, ciblées. Ça aussi, c'est tout un élément justement à sensibiliser, à nous sensibiliser par rapport à la publicité, je vais y arriver, la publicité ciblée, tout à fait. Mais ça faisait le tour de mes petits points pour aujourd'hui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, mis à part le petit devoir que tu avais à faire de revoir les paramètres?
J'ai mes propres devoirs, c'est bien de me l'avoir rappelé. Mais puis là, on va amener peut-être un aspect intéressant parce que tu amènes le marketing de proximité. Puis tu amènes aussi les effets de Facebook, mais des réseaux sociaux en général. L'espèce de quête où avoir un maximum de contacts. Et comment ça répercute tous ces éléments-là dans un environnement de sécurité dans lequel on veut protéger nos informations, tout ça. J'aime ça voir comment tu vois la contradiction de la quête à la popularité sur les réseaux sociaux et d'affaires aussi, parce qu'en affaires, on en a besoin, même si c'est pas de la popularité pure égocentrique, mais c'est quand même une forme de popularité pour que notre business ait des revenus. Donc, comment tu peux voir ça, cette combinaison-là de choses qui sont contradictoires d'ailleurs.
Ben oui, mais moi je trouve que on peut très bien publier du contenu professionnel sur nos réseaux sociaux sans rentrer nécessairement dans le personnel. Tout est question aussi de sélectionner bien particulièrement les informations auxquelles on va donner accès. On peut donner très bien l'impression qu'on publie tout, qu'on partage toute notre vie, mais nous, en tant que professionnels, on s'est fixé de propres limites et on a des personnes qui vont dire, ben, moi, je publie pas de photos de mes enfants. Moi, je publie pas de photos, justement, de ce que je mange. Peut-être que les individus vont avoir l'impression qu'on partage toute notre vie, mais pas nécessairement parce qu'on a un contrôle là-dessus. C'est juste dans la perception qu'on donne et dans ce qu'on veut laisser entrevoir pour laisser ce côté humain-là qu'on veut peut-être faire ressortir. Donc, mon point de vue par rapport à ça serait, ben, on peut très bien publier de l'information sans que ce soit de l'information riche et pertinente pour de la faute. Fraude pour des fraudeurs. Oui, il faut toujours penser à notre puzzle, mais si c'est toujours de l'information, c'est toujours la même information, mais qu'on recycle et qu'on amène différemment, ben c'est là la question, est-ce que c'est vraiment dommageable? Ça reste à voir, mais oui, je suis curieuse d'avoir ton point de vue aussi par rapport à ça.
Oui, ben, moi, je trouve l'énorme contradiction de ces choses-là. Moi, selon la nature, effectivement, comme LinkedIn, comme c'est une plateforme, puis c'est en sens ça, ma question, c'est LinkedIn, comme je cherche pas de la popularité, mais je cherche à établir beaucoup de contacts pour être capable de maintenir ma business à flot. Donc, c'est sûr que je vais avoir une très grande quête de contacts de ce côté-là, ce que dans Facebook, qui est contrairement, c'est totalement le contraire. Ce que je vois pas, les gens ne font pas nécessairement la distinction entre les deux, et la popularité ou point de vue égocentrique va être beaucoup marqué sur Facebook, Instagram, TikTok aussi d'ailleurs maintenant, qui sont beaucoup à la recherche de cette espèce d'amour d'inconnu, ce qui est une idée un peu farfelue en soi, là, d'avoir beaucoup d'amour d'inconnu, mais ça a l'air que ça vient répondre à certains besoins fondamentaux chez nous, fait que c'est cette espèce de quête-là qui m'intrigue, que je ne participe pas parce que je suis un Charlie, mais il y a beaucoup de Bob qui existent, qui aiment beaucoup ça, être sur la place publique et être vu, et il y a un danger à ça, puis c'est de savoir, là, tu parlais de comment bien cadrer ton chose, parce que les vedettes vont faire ce genre de choses-là, mais le font de façon très cadrée, parce que les autres ont des professionnels qui les suivent, qui ne diffusent pas d'informations qui est réellement personnelle, mais d'informations qui est stagée, qui est faite pour être mise publique. Donc, des photos, c'est des photoshoots arrangés, c'est toutes des affaires arrangées, c'est liché, c'est tout ça. Fait que tous ces éléments-là, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte non plus que c'est arrangé, que c'est des personnages qu'on voit, que c'est pas vraiment eux autres. Puis j'ai bien l'impression que des gens se laissent berner là-dedans et embarquent eux autres aussi à diffuser leur vie dans le même, mais pas avec la même différenciation que j'ai un persona public, j'ai un persona privé. Ma vie privée, je la diffuse pas sur les réseaux sociaux, mais je donne l'impression parce que je donne beaucoup de photos quand même. Fait que c'est cette distinction-là. Puis c'est un peu ce que tu disais là, c'est ce genre de choses-là, mais c'est pas bien perçu. T'as l'air de tes pensées, fait que je...
Ouais, non, exact. Moi, j'ai envie de dire, et peut-être c'est en tout cas, c'est ma perception. Moi, selon moi, la vie privée sur Internet n'existe juste pas. C'est même si on va paramétrer nos paramètres de confidentialité de façon à la Charlie un petit peu. Moi, selon moi, comme tu dis, on pourrait avoir une personne dans nos contacts qui se fait embarquer dans un stratagème, qui partage peut-être du contenu sur ses propres amis à notre insu. Donc, du moment, selon moi, où est-ce qu'on clique sur publier, peu importe que ce soit d'informations qu'on a très très bien sélectionnées ou du contenu plus personnel, ben on perd le contrôle complètement. Donc la vie privée, à quel point est-ce qu'elle existe encore sur Internet?
Ben, oui, puis je suis entièrement d'accord dans l'absolu. Effectivement, la vie privée n'existe pas sur Internet. On n'existe plus. Là. Ça a peut-être eu une époque où ça existait, là, ça existe littéralement plus. Il y a des régimes réglementaires comme le RGPD ou la loi en Californie qui amène des notions d'oubli. Qui nous ramène plus à comment l'humain fonctionne naturellement. Il y a comme un nettoyage dans nos mémoires qui se fait, donc on devrait avoir le même degré d'effacement sur Internet ou permettre à ce genre de choses-là. J'ai même vu certains commentateurs américains commencer à parler pour les adolescents, entre autres, le droit à ce que l'information disparaisse naturellement, parce que l'adolescence est un moment un peu fou. Où il y a des choses qu'on fait ou des choses qu'on dit qui ne sont pas représentatives de ce qu'on est parce qu'on est dans un moment de fluctuation interne qui est très, très grand. Donc, de ne plus laisser cet espace-là sans laisser de traces éternelles, ben c'est un peu un problème pour les adolescents parce qu'ils ne peuvent pas vivre cette folie-là. Ou même la notion de réhabilitation qu'on a beaucoup dans nos sociétés occidentales où on fait notre système de justice est basé sur la réhabilitation, que les gens sont réhabilitables. Et l'Internet retire complètement cette notion de réhabilitable-là parce que ça, on a des stigmates permanents. Parce que les stigmates n'est pas nécessairement permanent, mais on a des éléments qui viennent nous suivre toute notre vie ensuite, puis qu'on n'est plus capable d'avoir le droit à l'oubli, d'avoir le droit à réussir à repartir notre vie correctement. Fait que c'est très difficile, mais c'est une belle réflexion. Puis on aura peut-être l'occasion d'en discuter. On a déjà largement débordé le temps standard et on a quand même bien discuté de Facebook, un peu nos différents personas sur ça. Fait qu'on va conclure là-dessus. On va se reparler probablement au courant du mois de juillet, le temps de te laisser atterrir de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Et on va aborder d'autres sujets très intéressants de cette nature-là.
Ben oui, certainement. Merci encore. C'était très, très chouette.
Merci.